Radio G 101.5 FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur les ondes de Radio G au 101.5 à l'écoute de l'émission Radio Nippon. Aujourd'hui, dans cet épisode de Radio Nippon, on commencera par les actualités autour de la culture japonaise en Anjou et de ses environs pour les 15 prochains jours. Pour la deuxième partie de l'émission, nous retrouverons Xavier.
Bonjour.
Qui reviendra sur la suite de sa chronique sur l'histoire du Japon en parlant cette fois-ci de l'ère Heian. Nous retrouverons également Nicolas.
Bonjour tout le monde.
Qui nous présentera les enfers de Beppu. À la suite de son voyage au Japon, il revient pour nous faire partager un de ses coups de cœur personnels. Et bien entendu, quelques pauses musicales venues directement du Japon par Victoria en partageant Flower et Hey Hashiru. Et sans plus tarder, les actualités du jour.
Merci Léandre et bienvenue dans ces actualités des 15 prochains jours. D'abord, commençons par un festival SF à Nantes. Quel rapport avec le Japon, me direz-vous ? Eh bien tout simplement parce que les Utopiales de Nantes, du 31 octobre au 4 novembre, proposent pas mal de films d'animation japonaise, réalisés par Tadashi Imai pour Yuki, Signal 100 fait par Lisa Takeba, ou Withering With You fait par Makoto Shinkai, le réalisateur de Your Name. Le festival se déroulera du 31 octobre au 4 novembre à Nantes, non loin du Champ de Mars. Outre les films d'animation japonaises, les Utopiales proposent également un concours de cosplay au bout duquel sera remis un trophée décerné au meilleur cosplay, mais également une table ronde, retour sur un animé culte et avant-gardiste, Present Day, Present Time. Enfin, je vais terminer ces actualités par un atelier d'estampes japonaises proposé à Nantes par nos amis de l'association AJFJ. À partir d'un dessin inspiré du jeu de cartes traditionnel les Hanafuda, vous pourrez recréer une estampe à la manière japonaise et réaliser ainsi d'abord la gravure sur bois, puis la coloration des gravures et enfin l'impression finale des estampes. L'atelier se déroulera à l'AJFJ, 75 rue Allonville, 44 000 Nantes. Prévoyez 60€ par personne pour y participer. Chers amis auditeurs et auditrices, on se retrouve pour prolonger l'histoire du Japon. Petit rappel, il y a deux semaines, nous nous étions arrêtés dans les années 700 à 800 de notre ère, c'est-à-dire l'ère Taiho. L'empereur Camus avait décidé que Nara devenait la capitale. Elle en est restée d'ailleurs la capitale jusque dans les années 1860. Il inaugure donc la ville de Nara en 1794, basculant ainsi le Japon dans l'ère Heian. Ère que nous allons développer aujourd'hui. Alors que les Jomon s'étaient installés dans les montagnes, ils sont finalement chassés vers le nord par le général Sakanoue no Tamoramaro entre les années 800 et 803. Les montagnes ainsi conquises sont investies par les colons guerriers qui s'érigent en clans. Clans dans les montagnes, on va commencer donc à voir les moines bouddhistes arriver. Et justement, dans les années 805 et 806, deux moines bouddhistes chinois rapportent, chacun leur tour et chacun avec eux, une nouvelle doctrine bouddhiste. En plus de cette doctrine, ils vont également rapporter l'écriture chinoise avec les kanji. Ces nouvelles doctrines bouddhistes, pour une fois, tentent de concilier aussi bien le bouddhisme que les croyances autochtones. Comme je l'ai précisé juste avant, ces deux moines ont également ramené l'écriture chinoise. Mais le problème, c'est que l'écriture chinoise avec les kanji ne convenant pas pour traduire toutes les désinences japonaises, alors les japonais décident de créer leur propre alphabet, leur propre syllabaire. C'est donc la création des kana, avec notamment au début les katakana, littéralement par la main de l'homme. Cependant, à cette époque-là, justement, les femmes qui n'avaient pas accès à la culture chinoise ont commencé à développer leur propre système d'écriture pour combler ce manque. Et donc, elles ont développé un deuxième alphabet, un deuxième syllabaire, les hiragana, qui littéralement signifie « par la main de la femme ». Et aujourd'hui, les hiragana et les katakana, nous les retrouvons toujours dans les écritures japonaises. Les japonais ont donc trois alphabets communs. Trois alphabets en même temps, les hiragana, qui sont très souvent utilisés pour toute la grammaire, les katakana, qui sont très souvent utilisés pour tout ce qui est étranger et pour tout ce qui est sino-japonais, notamment les nombres sino-japonais, pour donner un exemple, et également les kanji, qui vont donner vraiment les mots et les sens de la phrase. Après cette petite aparté sur les cours de langue japonaise, revenons à notre histoire. Revenons à notre histoire et notamment, donc, on parlait des années 800. En 838, l'influence de la culture chinoise devenant beaucoup trop importante, il décide donc d'arrêter les échanges entre les différentes cours, bien que certains moines font un petit peu de résistance et maintiennent quand même des contacts, mais de manière individuelle. À cette époque, les sogas sont toujours au pouvoir, mais un clan, par des voies de noces, des voies d'alliance grâce au mariage, prennent progressivement les rênes du pouvoir japonais. Et ainsi, durant l'année 858, les Fujiwara réussissent à prendre tout le pouvoir du Japon. Et non, nous ne parlons pas de Takumi Fujiwara, il ne s'agit pas d'Initial D. Pas d'Initial D pendant une petite chronique histoire. Mais si vous aimez Initial D et le Drift, vous pouvez écouter une ancienne émission de la saison dernière sur le site de Radio G, en podcast. Revenons à nos Fujiwara qui, du coup, prennent les rênes du pouvoir de 1858 jusqu'au milieu du XIIe siècle. Milieu du XIIe siècle signifiant la fin de l'ère Heian, justement cette ère que nous développons. Mais toute cette ère et toute cette époque, il y a majoritairement une paix qui domine. Les Fujiwara arrivent à instaurer la paix, permettant un développement culturel très fort. On parle souvent justement de l'ère Heian et de cette époque avec les Fujiwara comme l'ère classique du Japon. C'est ici que va être fondé notamment tout un système multi-étatique, multi-clan. Avec les samouraïs, il va vraiment y avoir les bases de la culture japonaise et de la culture nippone comme on a l'habitude de la voir avec le Japon féodal. À compter des années 900, les seigneurs de grands domaines, appelés actuellement les shōen, ainsi que les Fujiwara, montent au fur et à mesure des milices et des troupes personnelles pour pouvoir lutter contre le banditisme et ainsi favoriser la paix et ce développement culturel. Mais par conséquent, on va obtenir un morcellement du Japon en de nombreuses grandes propriétés. Pendant que la cour impériale baigne dans le luxe, l'oisiveté, mais reste très pieuse. Ainsi, des années 900 jusqu'à l'année 940, les grandes propriétés et le statu quo réussissent à coexister. Mais en 1940, une grande propriété commence à se rebeller, le clan des Taira. Pour lutter contre, les Fujiwara empruntent alors des troupes à un autre clan, à l'est, le clan des Minamoto. Mais cette manœuvre n'est ni du goût des Taira, ni du goût des Minamoto, qui organisent alors leurs provinces respectives en états, et leur but ultime sera de supplanter les Fujiwara. On va rentrer alors à nouveau dans une période de guerre, une guerre de conquête, notamment les Taira et les Minamoto, qui se livrent une guerre de conquête respective, puisque tous les deux sont à l'est, et tous les deux vont chercher à conquérir le plus grand territoire possible. Il y a une véritable lutte. De leur côté, pourquoi les Fujiwara ne répondent pas ? Eh bien, c'est relativement simple, puisque les Fujiwara, petit à petit, vont se faire évincer. Mais ça, nous l'aborderons dans quelques minutes. Avant, j'aimerais juste faire une petite aparté, puisque dans les années 1000, à peu près, le bouddhisme se répand dans le peuple sous l'influence des femmes de la cour qui, avec leurs hiragana, écrivent des romans et prônent un piétisme populaire. Les Fujiwara, quant à eux, sont de plus en plus menacés et de nombreuses rumeurs, plus en plus grandes chacune les unes que les autres, prémissent et prévoient leur chute imminente. Jusqu'en 1868, où l'empereur qui accède au pouvoir pour la première fois n'est pas lié aux Fujiwara, ni de près, ni de loin, ni par alliance, ni même par quoi que ce soit. Cet empereur, alors, décide d'innover et de faire quelque chose de très intelligent. Il va abdiquer. En abdiquant, il va laisser son fils au trône dans l'année 1072 et va former, de son côté, un gouvernement parallèle. Il crée alors une coutume qui va durer pendant plus d'un siècle, avoir le gouvernement officiel et un gouvernement parallèle qui tient réellement les rênes du pouvoir. Les Fujiwara, qui du coup en reviennent d'autant plus affaiblis, finissent par être des ennemis de cet empereur à la cour. Mais les Fujiwara s'étaient attirés d'autres ennemis. Si vous vous souvenez, le clan Minamoto et le clan Taira. Comme les ennemis de mes ennemis sont mes amis, forcément ces deux clans vont se ramener vers l'empereur, vont se raccommoder avec cet empereur et vont commencer à progressivement prendre toutes les places au profit des Fujiwara. Les Fujiwara vont se faire évincer. Sauf que comme les deux clans, qui étaient les deux plus puissants à l'époque, ne peuvent pas survivre l'un avec l'autre, forcément ils ne tardent pas à vouloir chacun l'un et l'autre la suprématie sur le Japon. On va rentrer du coup justement dans le milieu du XIIe siècle, entre les années 1159 et les années 1189, avec des guerres et des luttes incessantes entre les Taira et les Minamoto. Ainsi, on va pouvoir citer qu'au début, les Taira vont commencer à prendre le pouvoir et réussir à mettre une personne à la tête du pays, qui s'appelle Taira no Kiyomori, qui devient chancelier de l'Empire. Cependant, sa dureté est si forte qu'on l'appelle le premier dictateur du Japon, et toute la sympathie de la population se tourne alors immédiatement vers les Minamoto. Malgré que les Minamoto se retrouvent affaiblis, le fait d'avoir obtenu l'adhésion du peuple fait que les Minamoto vont finalement s'imposer en maître et vont réussir à avoir la victoire finale en éliminant le clan Taira et conquérant tous les territoires des Fujiwara au nom de l'empereur. Territoire de Fujiwara qui se retrouve être au nord du Japon sur l'île de Honshu. Par cet acte, le Japon bascule dans l'ère Kamakura, ère que nous développerons dans notre prochaine émission. Je vous retrouve donc dans 15 jours pour la suite de l'histoire du Japon.
Merci Xavier.
De rien Nicolas, et tout de suite on retrouve Victoria pour sa première pause musicale. Vas-y, mets-nous un peu de J-pop.
Vous êtes toujours sur Radio G au 101.5 dans l'émission Radio Nippon. Et pour cette première pause musicale, restons dans l'actualité avec la Coupe du Monde de rugby qui se passe actuellement au Japon. Bien que le Japon ait été éliminé aux portes de la demi-finale, les Japonais ont su encourager leur équipe, notamment grâce à un hymne puissant réalisé par le célèbre groupe Biz. Si ce nom ne vous parle peut-être pas, il n'en reste pas moins le meilleur vendeur du Japon. Pour ceux qui regardent ou ont regardé l'anime Conan, vous avez pu les entendre sur un des nombreux génériques qu'ils ont fait. Ce groupe, composé d'un chanteur et d'un guitariste, a ainsi été choisi pour soutenir l'équipe japonaise pour cette Coupe du Monde de rugby. À chaque match, on peut entendre leurs chansons retentir sur les pauses publicitaires, vantant la force de l'équipe nippone. Il faut avouer, pour les avoir vus, que ces publicités vous donnent le frisson et sont dignes d'un animé. Écoutons donc sans plus tarder « Hey, Hashiru » par Biz pour nous donner un peu de peps en ce début de semaine. We'll be right back.
commencer, je vais d'abord faire une petite introduction sur la ville de Beppu. Donc c'est une petite ville d'environ 120 000 habitants, avec une faible densité de population, à peu près 950 habitants par kilomètre carré, située au nord-est de l'île de Kyushu, en bordure de la mer de Seto. Beppu est assez peu connue à l'étranger, mais elle est très réputée au Japon, car c'est l'une des stations thermales les plus prisées de l'archipel. Elle accueille environ 12 millions de visiteurs par an. Ça fait quand même beaucoup pour une ville de 120 000 habitants, mine de rien.
Ouais, presque 10%. Ouais. Plus de 10% d'ailleurs.
Ouais, c'est vraiment beaucoup. Et compte plus de 3000 sources d'eau chaude. C'est la raison pour laquelle elle est considérée comme la ville la plus géothermique du monde. Cette activité géothermique est d'ailleurs frappante dès que l'on observe la ville d'une hauteur. Personnellement, je suis originaire de la métropole lilloise. Je suis donc habitué à voir dans le paysage d'anciennes cheminées d'usines désaffectées. Eh bien, lorsque l'on observe Beppu, on a l'impression d'être devant une ville industrielle, mais toujours en activité. La ville a trois principaux atouts touristiques. Ses onsen, avec ses 3000 sources d'eau chaude, rien d'étonnant. La variété de ses bassins thermaux, alors de boue, d'argile, de sable, ferrugineux, etc. Et ses 8 enfers, qui sont en fait 7 officiels et un officieux. Les enfers de Beppu sont des sources d'eau chaude, très chaudes, puisque certaines frôlent la barre des 100 degrés Celsius. Je ne pense pas avoir besoin de vous préciser que l'on ne s'y rend pas pour faire trempette. Nous allons maintenant débuter notre tour des enfers. Je vais tenter une description succincte de chacun d'entre eux, dans l'ordre dans lequel je les ai moi-même visités, si j'ai bonne mémoire. Commençons avec le Shinoike Jigoku, ou l'enfer de l'étang sanglant. C'est un lac plutôt grand, avec une eau à 80 degrés, de couleur rouge, comme son nom l'indique. J'ai été fort impressionné en le voyant. Déjà, parce qu'on ne voit pas tous les jours un lac rouge avec une eau chauffée à 80 degrés. Mais je pense que c'est surtout dû au contraste entre cette eau rouge, chaude, bruyante, avec comme un léger brouillard planant à sa surface, et la végétation luxuriante tout autour. Cette source aurait 1300 ans, ce qui en ferait le plus vieux des 8 enfers. Passons au Tatsumaki Jigoku. C'est tout simplement un geyser. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce mot, un geyser est une source d'eau chaude, chauffée par le magma, expulsée ponctuellement à la surface. Celui-ci rejette de l'eau toutes les 30-40 minutes et peut atteindre une hauteur de 50 mètres. Vient ensuite le Shiraike Jigoku, ou l'enfer du lac blanc. Comme son nom l'indique, c'est un lac ayant un aspect laiteux. Sa couleur varie du blanc au verdâtre. Et il était bien verdâtre le jour de ma visite. C'est un endroit plutôt apaisant. On peut également y visiter un bâtiment avec plusieurs aquariums, mais ceux-ci ne sont pas très entretenus. Passons au Oniyama Jigoku, ou la montagne du démon. Le lac en lui-même est plutôt joli. L'eau y est de couleur bleue, avec des bords couleur rouille. Pour l'anecdote, l'eau y est à 98 degrés. Cet enfer porte ce nom car il s'agit d'une sorte de zoo où sont entassés des dizaines de crocodiles immobiles par manque de place. On peut y voir également une exposition de squelettes, peaux et cadavres empaillés de crocodiles. C'est une visite dispensable de mon point de vue. Fuyons vers le Kamado Jigoku, ou l'enfer du chaudron. On le surnomme ainsi car on y faisait cuire du riz lors d'un festival. Alors, c'est certainement mon enfer préféré. Et pourquoi ? Parce que c'est le plus varié. On y trouve des bassins de boue, un petit geyser, un très joli bassin de couleur bleu cyan facile à observer, car avec très peu de condensation de vapeur à la surface. De mon point de vue, c'est un passage obligé si vous faites la visite de Beppu. Dirigeons-nous vers le très joli site qu'est l'Uni Jigoku, ou l'enfer de la mer. On y accède en longeant un petit étang couvert de nénuphars, réputé pouvoir supporter le poids d'un enfant de 20 kg. Le lac se situe derrière la boutique. C'est la plus grande source du tour. D'un bleu azur également, mais moins facile à observer à cause justement de cette condensation de vapeur à la surface du lac. Le site est vraiment très joli, entre la végétation omniprésente autour du lac, la petite source d'eau rouge, le sanctuaire Shinto proche de la source, ou encore la serre tropicale remplie de fleurs de lotus. Dernière visite, le Oni Shibozu Jikoku, désolé pour la prononciation, littéralement l'enfer des moines Oni Shibozu, certainement le plus hypnotisant de tous. On y trouve plusieurs bassins remplis d'une boue grisâtre, desquelles surgissent de petites bulles qui éclatent à la surface, comme dans un plat que l'on laisserait mijoter sur le feu. Il tire son nom de la forme de ces fameuses bulles qui rappellent celle du sommet du crâne des moines. Donc il reste l'enfer de la montagne, le Yama Jigoku, que je n'ai pas visité, ne connaissant pas son existence à l'époque en fait. Il ne fait plus partie des enfers officiels depuis juillet 2017. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, 7 officiels et un officieux. J'ai encore quelques remarques concernant la visite des enfers. Lors des visites, on croise régulièrement des représentations de Oni, parfois discrètes, souvent exagérément imposantes et toujours superflues. Disons qu'elles m'ont plus ou moins dérangé en fonction des sites. Personnellement, je conseille de prendre une petite journée pour ces visites, histoire d'avoir le temps de vous attarder devant les sources, de faire un tour dans les boutiques de souvenirs, de vous restaurer, etc. Je conseille également de prendre le pass pour les 7 enfers. Ça reste beaucoup plus économique, et ce, même si vous ne comptez pas tous les visiter. Par contre, il existe un pass d'une journée qui permet de circuler en bus entre tous les enfers. Mais de mon point de vue, c'est pas indispensable. Je n'ai, pour ma part, pris qu'une seule fois le bus, entre les quartiers de Shibaseki, où se trouvent 2 des enfers, et de Kanawa, où se trouvent les 5 autres. Et comme je n'ai pas de chute à ma chronique, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu.
Merci Nicolas pour ta petite chronique. Bah écoute, tu nous as encore une fois fait découvrir le Japon et une partie du Japon. Mmh. Les 3 mois que tu as passé au Japon nous sont toujours très utiles pour pouvoir réussir à avoir des belles images et pouvoir conseiller au mieux nos auditeurs. Donc bah écoute, je te remercie.
Bah merci. Le plaisir est pour moi de toute façon.
Voilà. Parmi les 7 enfers, j'avoue, c'est intéressant. C'est situé où à peu près sur l'île du Japon, parce que j'ai pas
sur l'île de Kyushu. Bah ouais. C'est au nord-est. En fait, c'est sur la côte. Alors de mémoire, c'est dans la province de Oita, et c'est au nord-est. En fait, c'est au bord de la mer de Seto.
D'accord, très bien. Et c'est le volcan du Mont Fuji qui fournit ces eaux chaudes?
Absolument
ou,
pas.
Absolument pas, c'est quoi?
Bah en fait, tu n'es pas sans savoir que le Japon est sur la ceinture de feu du Pacifique. Oui. Et du coup, tout le pays est sur la entre les deux plaques. Tectoniques,
oui. Donc comme il est sur la ceinture de feu, il y a énormément d'endroits où on a des points de lave, des points des petits volcans et des points de chaleur.
Mmh, effectivement.
On est bien d'accord. Merci Nicolas pour ta petite chronique. Encore une fois, tu nous as fait voyager et je te remercie pour ces petites précisions sur l'île de Honshu et où était l'île de Honshu. Et tout de suite, on va pouvoir retrouver notre amie Victoria pour sa deuxième petite pause musicale. Et donc, elle va nous présenter un titre que l'on connaît très probablement tous. Victoria, c'est à toi.
Et pour finir l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler du groupe Lenny Code Fiction, déjà présenté il y a un peu plus d'un an, et notamment de sa participation dans l'anime All Out. En effet, si cet anime s'étale de l'automne 2016 à l'hiver 2017, il est cependant dans l'air du temps récemment avec la Coupe du Monde de rugby. Et oui, vous l'aurez compris, le thème de celui-ci n'est autre que le sport, et tout particulièrement le rugby. Lenny Code Fiction, jeune quatuor labellisé en 2016, a su se faire entendre sur la scène de l'Anisong avec des génériques pour Degreyman ou encore My Hero Academia. L'opening de All Out est ainsi une chanson forte qui appelle à toujours croire et surmonter les obstacles, comme le feront les héros de l'anime. Je vous propose donc de l'écouter tout de suite, Flower par Lenny Code Fiction. Sur ce, bonne écoute et à dans 2 semaines, même lieu, même heure sur Radio Nippon.
Let's go. Shigiwara.